Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros, jusqu'à 9h30 sur Europe 1, jusqu'à 10h30 sur CNews. Le Parlement européen a criminalisé mardi la gestation pour autrui, la GPA, qu'il considère comme un trafic d'êtres humains. Cette décision intervient au moment où Marion Maréchal a pris position hier contre la GPA. Sur le réseau Twitter, la tête de liste de Reconquête a commenté la naissance de jumeaux annoncée par Simon Jacquemus, un styliste réputé par son mari. Par ce commentaire, où est la maman ? Ces quatre mots ont déclenché un flot de violence inouïe contre Madame Maréchal, qui fut accusée notamment d'homophobie. Non ! Ce n'est pas être homophobe que condamner la GPA. Elle ne concerne d'ailleurs pas que des couples homosexuels. Marion Maréchal est très courageuse. Elle marche à contre-courant de l'espace médiatique. Elle a des convictions. Elle ne les renie pas. Elle n'avance pas masquée au risque de déplaire, comme en son temps. François Mitterrand prit position contre la peine de mort. J'observe ce matin que le Parlement européen est sur la même ligne que Madame Maréchal. Je ne doute pas que la Macronie, Prisca Thévenot et Clément Beaune, qui n'ont pas eu de mots assez durs hier contre Marion Maréchal, fustigent ce jour cette noble assemblée qui, en criminalisant la GPA, dévoile à leurs yeux son homophobie. Il est 9h, Chana Lousteau.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Près de 7 Français sur 10 sont pour que la France s'inspire du Royaume-Uni et expulse les migrants en situation irrégulière vers un pays tiers comme le Rwanda. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. 67% sont favorables, 32% ne le sont pas et 1% ne se prononce pas. La situation pourrait devenir hors de contrôle dans les universités américaines. On vous parlait du mouvement pro-palestinien à Columbia avec la création d'un campement dans la cour de l'établissement. Mais ce mouvement se propage partout dans le pays, notamment au Texas, en Nouvelle-Angleterre ou encore en Californie. La pression est tellement forte que les étudiants israéliens ne veulent plus aller en cours. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, n'exclut pas de déployer la garde républicaine.
Si la situation n'est pas maîtrisée rapidement et si ces menaces et intimidations ne cessent pas, le moment est venu de déployer la garde nationale. Ces manifestants sont menaçants, intimidants et ils disent qu'ils s'en prendront aux étudiants juifs.
Et puis à Paris, les ailes du Moulin Rouge se sont effondrées cette nuit. Les pompiers ne savent pas encore ce qui a pu provoquer cette chute, mais heureusement, il n'y a eu aucun blessé. C'est la première fois qu'un accident de ce type se produit depuis la création du célèbre cabaret qui fêtera ses 135 ans cette année. Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous.
Écoutez, cher Chana,
tout fout le camp
dans ce pays.
Tout s'écroule.
Les ailes, tout s'écroule. Même les ailes du Moulin Rouge. Et...
c'est vrai.
Quelqu'un est allé d'ailleurs au Moulin Rouge ? Je ne suis jamais allé de ma vie. Bon, ah si, j'y suis allé d'ailleurs. J'y suis allé une fois.
Il y avait une émission de télévision.
Oui, exactement, pour une émission de télévision. Je salue Sabrina Medjeber qui est là. Oui. Bonjour. Oui. Philippe Bidger.
Bonjour.
Bonjour. Jean Dorido, vous êtes psychologue et vous allez pouvoir parler de la GPA avec nous parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Philippe Guibert et Gauthier Lebret sont également là. Et Monsieur D'Artigol. Marion Maréchal, je disais... quoi qu'on pense, hein, de la GPA, on peut être bon.
On peut être pour.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais peu importe, oui. Mon avis n'est pas.
Non, bien sûr.
C'est parce que moi,
c'est intéressant. Comme vous le donnez dans d'autres occasions.
Il est intéressant votre avis.
Alors, mon avis est toujours le même. Il y a des demandes dans la société qui sont nouvelles et il faut les écouter. Voilà. C'est cela.
Mais pas forcément les satisfaire. Donc.
Non, il a dit les écouter.
Voilà. Et comme toujours, je dis toujours la même chose, la fracture, elle est générationnelle. Voilà. C'est-à-dire que les gens de 20 ans pensent comme ça et les gens de 80 ans pensent différemment, surtout sur ces sujets sociétaux. Mais peu importe mon avis. En revanche, ce que je trouve pas convenable, c'est d'attaquer Marion Maréchal en expliquant qu'elle est homophobe. Elle ne l'est pas.
Non.
Elle ne l'est pas. En tout cas, mais dire condamner la GPA. Mais on va l'écouter. On va l'écouter d'abord, Marion Maréchal. Et puis après, on va entamer la discussion entre nous, bien évidemment. Marion Maréchal, c'était hier soir sur CNews.
Je ne m'habitue pas à la banalisation de cette pratique qui, je le dis, le plus franchement possible, est pour moi monstrueuse et honteuse. Voilà, monstrueuse et honteuse. Et je pèse mes mots. Jamais je n'accepterai qu'on banalise le fait de louer le ventre d'une femme pour une grossesse. Je ne suis pas un produit à louer. Mon utérus n'est pas un produit à louer. Les enfants ne sont pas des biens de consommation. Ce ne sont pas des biens à vendre qui peuvent faire l'objet d'un contrat. Si on est aujourd'hui à se poser la question du débat des mères porteuses, c'est parce qu'on a eu...
J'entends bien, mais pour que...
Si vous voulez pas qu'on organise la privation d'un père ou d'une mère à la naissance d'un enfant, eh bien dans ce cas-là, il ne fallait pas accepter au départ l'adoption homosexuelle. Parce que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause de cela.
Et c'est une femme de conviction qui parle. Manifestement, elle était habitée par ce qu'elle disait. C'est ça que je trouve intéressant. Alors, on revient, pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu son tweet hier matin, le tweet qu'elle a produit après M. Jacquemus et son mari ont annoncé la naissance des jumeaux, elle dit... Où est la maman?
Bon, mais ce qu'on comprend quand elle parle, c'est pas seulement un tweet contre la GPA, c'est aussi un tweet contre l'adoption et contre le mariage pour tous. Elle a été très claire hier à votre micro.
Oui. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas tout à fait ça. Mais quand elle dit où est la maman, elle pense, j'imagine, à la maman biologique.
Alors il fallait le dire.
À la mère porteuse, oui.
Bah, enfin, où est la maman?
En toute honnêteté.
Il n'y a pas d'autre. Vous envoyez une autre maman.
Oui, je vais vous la donner. En toute honnêteté, j'ai lu ce premier tweet comme un questionnement sur la capacité qu'auraient ces deux papas à rendre heureux les jumeaux.
Non, mais elle est con.
Je suis, moi, opposé à la GPA parce que j'y vois une marchandisation du corps de la femme et de l'enfant.
Là, c'est de mauvais choix.
Non, mais en toute honnêteté, j'ai lu ce tweet comme...
Bah, vous l'avez mal lu.
On a dû être nombreux à le lire ici.
Là, il faut juste être d'accord sur le factuel. Marion Maréchal est contre que deux papas et un enfant. C'est tout.
Sur
de manière adoptée ou de manière par GPA. Voilà, elle l'a dit hier. C'est le factuel, Pascal.
Jordan Bardella a réagi ce matin, et puis après on va entamer la discussion et vous allez nous donner évidemment votre avis, Monsieur Dorido, qui est avec nous.
Je n'aime pas cette manière de cibler directement les personnes. En revanche, sur le fond, moi, je suis opposé à la gestation pour autrui parce que je pense que ça participe d'une logique de marchandisation du corps des femmes. Et je suis, éthiquement parlant et philosophiquement parlant, opposé à la gestation pour autrui.
D'accord sur le fond, mais pas sur la forme.
C'est-à-dire cette manière qui consiste à pointer les gens comme ça du doigt. Je pense qu'il faut toujours faire très attention. On peut en politique s'en tenir à des principes sur l'immigration ou sur la GPA sans viser directement des personnes.
Ah, je suis pas sûr qu'elle visait des personnes, et la maman, mais enfin, moi, je l'ai pas lu comme ça.
Il parlait du
bon, en revanche, Prisca Thévenot.
Jacquemus, il est visé par le tweet de Marion Maréchal. C'est-à-dire que vous pouvez être contre ce que dit Jordan Bardella, c'est que vous pouvez être contre la GPA, mais vous n'avez pas besoin de cibler un couple en particulier qui doit quand même se retrouver au cœur d'une polémique depuis 48 heures. Non. Pas très agréable.
Mais vous avez raison. Je peux pas, c'est un argument qui s'entend. En revanche, je vous propose d'écouter Prisca Thévenot, qui est la porte-parole du gouvernement.
Alors, aussi, c'est pas mal.
Quelle que soit la composante de son couple, femme, homme, 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 femme, femme, accueille et célèbre avec joie l'arrivée d'enfants dans son foyer, en général de façon assez simple, je pense que dans nos vies perso, la première des réactions, c'est de dire félicitations. La première des réactions, c'est ça. Et pas de s'empresser de tweeter pour poser une question, où est la maman? Sachant que, arrêtons de faire comme si nous ne savions pas, Marion Maréchal Le Pen est opposée au mariage pour tous. Elle y est opposée. Donc pour elle, effectivement, c'est une vocation politique de se servir d'un fait de joie. Et moi, j'ai envie de dire de façon très simple, c'est que oui, permettons-nous d'effectivement de pouvoir accueillir ces moments de joie sans en permanence essayer de rattraper ça par des discours de haine. Et je pense que nous devons être en capacité de regarder ça. On ne découvre pas Marion Maréchal aujourd'hui.
Mais est-ce qu'on dit félicitations à quelqu'un qui enfreint la loi?
Ils ont accueilli un enfant. Je pense qu'à un moment, il faut pouvoir aussi l'accueillir, le regarder.
D'accord, donc on ne condamne pas...
Sur le sujet de la GPA, c'est votre sujet.
C'est interdit, la GPA.
Le sujet de la GPA, la ligne est claire. Et la ligne, si vous voulez, je la rappelle, la GPA n'est pas autorisée en France. Une autre ligne est claire, c'est que l'homophobie est un délit aussi.
Merci.
De rien. Ce qui est agaçant dans ce monde, c'est que, évidemment, ce n'est pas un discours de haine de dire où est la maman. Oui. Donc, ce n'est pas un discours de haine. En revanche, Jacques Seret pose la question, est-ce que ce couple enfreint la loi ?
Non, parce que la GPA était pratiquée à l'étranger.
C'est illégal en France. La GPA est illégale en
France. Elle enfreint la loi.
Par contre, quand vous allez faire une GPA à l'étranger, ce n'est pas illégal. Et les enfants sont même reconnus par une circulaire prise par
Christiane Taubira. C'est une hypocrisie, alors.
Ils sont reconnus.
C'est une hypocrisie légale.
C'est de dire que les enfants, ils n'ont pas choisi de naître, ni la manière de concevoir.
Mais ce couple...
À partir du moment où ils existent, vous leur donnez la nationalité française, vous pouvez les inscrire dans le livret de famille, etc.
Donc, dans quelles conditions ça a été fait?
Ce couple n'enfreint pas la loi.
Ce couple n'enfreint pas la loi. La GPA n'est pas faite en France.
Monsieur Dorido qui est avec nous, votre avis?
Mon avis, c'est très intéressant de vous écouter les uns les autres. La GPA est illégale en France. Ça, c'est un fait. Et c'est nous qui écrivons la loi par l'intermédiaire du législateur pour qui on vote. Donc aujourd'hui, nonobstant les sondages divers et variés, la France est contre la gestation pour autrui. Ça, c'est le premier point. Sur la question de l'infraction, aujourd'hui, concrètement, quand un couple, quelle que soit sa composition, procède à une gestation pour autrui à l'étranger, dans un pays dans lequel c'est autorisé, il y a imaginons que ce soit un monsieur, un père, qui est reconnu comme étant le père, et puis de retour en France, si cet homme est marié à un homme, alors à ce moment-là, le mari du père de l'enfant peut procéder à ce qu'on appelle une adoption plénière. Oui. Et à ce moment-là, devient le deuxième père de l'enfant. Pour autant, en psychologie, ce qui prime sur toutes les questions de société, d'avis politique et autres, c'est ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire que là, j'entends beaucoup parler de l'intérêt de la génitrice, qui est une question tout à fait légitime, évidemment, avec les questions éthiques que ça pose en termes de marchandisation, en termes d'échange d'argent. Pour autant, je n'entends pas parler de l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, c'est une question majeure, puisque l'on sait que dans tous les parcours de vie qui sont marqués par l'adoption, la question de la restitution auprès de l'enfant de son histoire est une question essentielle. Et les secrets de famille, par exemple, quant à l'histoire d'un enfant, et on n'a pas attendu les questions de GPA pour ça, il y a toujours eu dans les grandes familles des filles de palefreniers, des fils de jardiniers. Et on a vu, si vous voulez, la science aujourd'hui est assez riche sur les troubles majeurs que pose le secret quant à la
là, il n'y a pas de secret si on dit à cet enfant...
C'est une question que pose la GPA. Comment vous... Je n'entends pas, je vous entends débattre.
La question de l'origine. Vous dites à un enfant la vérité, tout
moi,
simplement.
Moi, je ne dis rien, moi, un enfant. Moi, je suis là pour parler du sujet. Je n'entends pas...
Vous dites un secret, moi, je vous réponds, j'imagine.
Je n'entends pas aborder la question majeure. Une des questions majeures que pose la GPA, qui est illégale en France, je n'entends pas poser cette question. Comment sera restituée à l'enfant son histoire? Alors que c'est une question essentielle.
Et bien sûr, mais en fait, ça ne me paraît pas très compliqué de dire à un enfant...
Peut-être vous ne vivez pas la chose, ça se pourrait.
Sans doute, mais non, ça ne me paraît pas très compliqué de le dire. Ça va, de dire à cet enfant, voilà, ton père et moi... prenons le cas de ces deux hommes, nous nous aimions, nous ne pouvions pas avoir d'enfants en France, nous avons choisi de rencontrer une femme qui a fait cet acte d'amour pour nous, et tu es le fruit de cette naissance. Et sache qu'on est très heureux que tu sois...
Vous faites un récit très positif.
Et sache qu'on est très heureux que tu sois sur cette terre, je pense que tu l'es aussi, parce que la vie est là.
Je pense que vous pensez à sa place.
Et nous avons payé ta maman. Parce que vous faites
Je ne vous dis pas que c'est ce que je pense. Je le dis.
Que ces choses-là sont bien dites.
Je vous dis.
Et si le gamin dit.
On peut avoir un récit plus.
Très bien, merci pour cette information. Maintenant, je voudrais rencontrer.
Et bien, à ce moment-là, vous lui dites. Il faut toujours dire la vérité aux gens, vous dites voilà, dans le cadre de cette naissance, il était convenu qu'une fois que tu sois né, cette mère, tu ne la rencontres jamais.
Voilà. Alors je vous remercie.
Mais nous lui avons donné 20 000 euros.
D'apporter de l'eau à ma réflexion.
Oui.
L'intérêt supérieur de l'enfant, à ce moment-là, n'est pas pris en compte.
Mais c'est possible. Sait, si... on le sait aujourd'hui, c'est documenté. La question de l'accès aux origines.
Non, mais moi, je ne donne pas mon avis.
Et les adoptions sous X. Et les adoptions sous X.
Ben justement, c'est passé dans la loi récemment. Il y a aujourd'hui un droit qui est inscrit dans la loi d'une personne née sous X d'avoir accès aux informations que la génitrice a peut-être accepté.
Philippe Bilger, ou pas.
Et dans les cas où ça n'est pas, où il n'y a pas d'informations, c'est très difficile quand vous faites de la clinique sur le sujet. C'est très difficile pour les personnes nées sous X de subir cette absence d'information.
Vous avez raison, Philippe Pascal. Bidon. D'abord, Marion Maréchal n'est pas homophobe lorsqu'elle dit ça. C'est une évidence. Ensuite, la GPA est interdite en France. Troisième élément, vous avez totalement raison, même si parfois j'ai eu le sentiment que vous abusiez un peu de cette explication. Là, c'est clairement générationnel. En ce qui me concerne, j'ai du mal à valider la GPA. Pour des raisons de marchandisation et le fait que même s'il y a des situations qui appellent des réponses de ce type, je préfère tout de même qu'on respecte cet humanisme minimal qui consiste à ne pas instrumentaliser autrui sur ce plan-là. Et dernier élément, est-ce qu'on parlerait véritablement de ce propos, si elle n'avait pas utilisé deux adjectifs que je trouve aberrants. La GPA, je suis hostile à ce qu'elle représente, mais je ne la qualifierais pas de monstrueuse ni de honteuse. C'est une absurdité, ça, de dire ça. On n'aurait pas ces deux adjectifs, il serait plus sensé. Est-ce qu'on aurait véritablement une polémique sur l'évidence qu'elle a affirmée ?
Sabrina Badjaber.
Moi, je me souviens des propos de feu Pierre Berger qui avait dit, après la manif pour tous, louer son ventre, quelle différence entre louer son ventre et louer ses bras à l'usine. Donc, pardon, moi, des propos comme ça, ça me choque. Moi, je suis contre la GPA. Je soutiens Marion Maréchal dans ses propos. Je considère que c'est évidemment une prolétarisation liée à la marchandisation du corps de la femme. Quand elle dit « mon utérus m'appartient », elle a tout à fait raison. Le corps des femmes, c'est le corps des femmes. La marchandisation... pour faire plaisir à un couple homosexuel qui désire avoir un enfant par le biais d'une femme qui vit dans une situation de précarité, je trouve ça, honteux et monstrueux. Je m'étonne également de toutes les réactions qui n'existent pas concernant les féministes de gauche qui se plaignent en permanence du capitalisme prédateur, mais qui là ne semblent pas s'offusquer justement de la gestation pour autrui qui est précisément oui. L'acte...
Olivier Dartigolle, et on montrera effectivement le tweet d'Éric Nolot et le tweet également du président de la République.
Ah ben voilà.
Il y a quelques années.
2017, au début de son premier quinquennat.
Je ne sais pas si Marine Lançon va nous le proposer.
Une hypocrisie du côté du gouvernement.
Ce sont en fait les mêmes mots qu'Emmanuel Macron... ce sont les mêmes mots que Madame Marion.
Pas monstrueux.
Si, mais il a dit... Oui. Elle a répondu avec les mêmes mots.
C'est une question d'éthique et de dignité.
Marion Maréchal a tweeté ça.
Intéressant, Pascal, la manière dont vous avez tout à l'heure mis en récit la façon dont on pourrait annoncer à un enfant la manière dont ça s'est passé. Parce qu'au final, vous avez fait un récit qui était au nom de l'amour deux hommes qui veulent avoir un enfant et qui ont donc procédé de cette manière-là. Sauf que vous avez totalement évacué la dimension marchande qui prend des proportions dans certains pays. Il faut voir les chiffres, les chiffres qui circulent, les situations faites à ces femmes.
C'est vrai.
Et donc, le marché a pris la main sur beaucoup d'activités, pans de nos vies, de nos sociétés. Il y a des choses qu'on devrait protéger parce qu'elles ne sont pas marchandises.
Regardez le tweet d'Emmanuel Macron. Pendant mon quinquennat, la GPA restera interdite en France. C'est une question d'éthique et de dignité. Et Marion Maréchal a répondu à ceux qui l'attaquaient. C'est une question d'éthique et de dignité. Et elle a repris, effectivement, les mots du président de la République. On peut peut-être écouter Mme Agacinski, qui était intervenue sur ce sujet. Un matin, c'était sur France Inter. Elle est aujourd'hui académicienne. C'est une femme de gauche. Et elle a une position très claire et très radicale contre la GPA. Et je vous propose de la réécouter.
Je ne me place pas à la place du législateur. Je dis réfléchissons, je pose des questions. Et je parle d'ailleurs d'abord aux femmes. Je dis les femmes doivent d'abord s'interroger là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de construire de manière artificielle, de provoquer de manière artificielle la naissance d'un enfant dont, a priori, qui sera a priori privé et de géniteur et de père. Moi, je dis aux femmes, faites attention, parce que... On a déjà l'expérience avec la PMA, qui est d'ailleurs très, enfin, il y a très peu, pardon, je veux dire trop de choses à la fois. La PMA pour les couples mixtes, c'est pas des couples hétérosexuels, c'est des couples mixtes parce que la PMA est médicalement s'adresse.
La PMA thérapeutique pour ceux qui ont un problème pour avoir des enfants.
Oui, c'est pas vraiment thérapeutique, c'est pour cause médicale.
Oui.
Donc c'est pour.
Et vous êtes inquiète de ça, par exemple, ça, ce qu'on utilise la PMA thérapeutique ou la PMA pour soigner une stérilité.
Ah ben non, pas du tout.
On est d'accord.
Non, pas du tout. L'autre, on va pas abandonner la PMA. Je ne dis pas ça. Je constate simplement que dans les faits aujourd'hui, les méthodes d'injection directe, pour être clair, des spermatozoïdes dans l'ovule font que la PMA pour les couples mixtes qui ont des problèmes de pathologie utérine, les gamètes, etc., il y a 5% de dons de gamètes. Tout le reste, c'est les gamètes du couple et l'enfant, et donc l'enfant du couple. Or, pour l'enfant qui est né de sperme inconnu, vous avez tous lu le livre d'Arthur, Kermalvesen, etc., pour l'enfant de sperme inconnu, il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut essayer de résoudre, et je suis d'accord sur l'idée qu'il faudrait peut-être, par exemple, que le donneur laisse une lettre à l'enfant pour expliquer ses motivations, pour qu'il y ait une repersonnalisation de l'engendrement, on va dire. Mais que se passe-t-il si l'enfant, lui, n'a que une seule filiation maternelle, ou de deux mères, ou d'une seule mère? Alors, on construit, à cause de la loi et à cause de la médecine, les conditions d'une naissance qui va être différente de tous les autres enfants, qui va être tronquée. Comme dit Lévi-Strauss, hein, la parenté est construite sur la procréation.
La parenté,
bon, là, c'était davantage sur la PMA. On rappelle quand même qu'au Danemark, c'est autorisé. Aux Pays-Bas, c'est autorisé. En Albanie, en Géorgie, en Grèce, c'est autorisé. Au Canada, c'est autorisé. Et c'est également autorisé dans certains États fédérés américains.
Qui dit mieux? Non, mais c'est ça la question. Non, mais c'est pas parce que...
Non, mais moi, je vous donne la parole.
La réflexion psychologique, éthique, philosophique, anthropologique... fait fi de décisions prises dans tel ou tel état.
Enfin, en fait, pour que je comprenne,
le travail des enfants en France est interdit depuis le 19e siècle. Bon. Il y a des pays où c'est autorisé.
D'accord. Pour que je comprenne votre position, vous êtes contre la GPA parce que vous considérez que ce n'est pas l'intérêt de l'enfant.
Alors, pour le coup, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Je ne me positionne ni pour ni contre. Vous m'invitez en tant que psychologue et je m'étonne que des questions essentielles concernant la GPA ne soient pas abordées sur votre plateau. J'entends une polémique politique qui est respectable. Ok.
Bon. C'est quoi la question essentielle?
La question essentielle, c'est l'intérêt de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant.
Mais oui, mais vous-même, vous ne pouvez pas y répondre.
Mais parce qu'on n'a pas de recul.
Bah alors qu'est-ce qu'on fait?
Il y a toujours eu dans l'histoire.
Donc qu'est-ce qu'on fait?
Il y a toujours eu dans l'histoire.
Mais qu'est-ce qu'on fait?
Pascal Pro, vous parliez d'amour tout à l'heure entre deux hommes. Il y a toujours eu des GPA, je dirais artisanales. Oui. Ça a toujours existé. On peut même en connaître autour de nous. Deux hommes qui s'aiment, ils ont une copine et ils se mettent d'accord et donc il y a un enfant qui naît et ça donne de très belles histoires de vie pour le coup parce que vous l'avez dit, il n'y a que de l'amour. Monsieur Dartigolle le rappelait tout à l'heure, là on aborde une dimension qui est essentiellement économique, une dimension de transaction marchande. Et ça pose.
Mais j'entends bien, je vous assure, j'entends bien. Mais il n'y aura jamais de recul, par définition. C'est-à-dire que si on ne le tente pas, il y aura.
Vous évoquez des pays où c'est autorisé.
Attendez, monsieur Dorado. Il y aura par définition, soit on le tente et il y aura du recul, soit on ne le tente pas, il n'y aura jamais de recul.
Là, c'est tenté pour l'instant dans plein de pays.
Non, mais répondez à ce que je dis.
Oui, c'est tenté dans plein de pays.
Donc, vous dites qu'il n'y a pas de recul.
On pourra voir dans 30 ans les petits Danois ce que ça donne.
Donc, votre position, c'est de considérer qu'en attendant, on ne la légalise pas en France.
Mais c'est illégal en France.
Oui, mais c'est votre position. Vous pensez que ce n'est pas une bonne chose.
Si votre question, c'est est-ce que je vais militer demain pour qu'on change la loi pour autoriser les GPA? Non, ce n'est pas dans mes projets, ça, effectivement.
Non, mais vous pensez donc que c'est contre l'intérêt de l'enfant. C'est ça qui m'intéresse. Votre avis m'intéresse.
L'intérêt supérieur de l'enfant.
Votre avis m'intéresse. Oui.
Tenez votre position.
Sans blaguer, j'ai vraiment. Je le vois dans ma clinique. Il y a des histoires de GPA artisanales. Qui sont des très très belles histoires de vie, et il y a beaucoup d'amour, et il n'y a pas de souffrance en termes cliniques. Pour autant, si vous voulez, là c'est l'ancien ingénieur qui vous parle, là on passe de l'artisanal à l'industriel. C'est ça la question. Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, pardon pour la métaphore. On sait bien, on le voit même sur l'alimentation, dès que vous faites de l'industriel, il y a plein de problèmes. Problèmes d'hygiène, problèmes de justement d'éthique, comment sont traités les ouvriers. Madame le rappelait tout à l'heure, on parle quand même de femmes qui vont vivre une grossesse pendant 9 mois, en prévoyant, comme le disait Madame Agazinski, à l'avance, d'abandonner l'enfant. Pas besoin d'être ceinture noire de psychologie pour comprendre qu'une femme, quand même, qui se sépare du fruit de son sein, c'est quand même une épreuve dans la vie. Et donc, tout ce qui est artisanal, basé sur l'amour, c'est des très très belles histoires. Là, vous me dites, alors, on industrialise, Jean. On y va, on industrialise. Ils le font au Danemark, ils le font partout. Moi, je vous dis, écoutez, non, Pascal, c'est pas raisonnable.
Et c'est pour ça que je vous pose des questions et que votre avis...
Ça ne semble pas raisonnable.
Et bien voilà, votre avis de spécialiste nous intéresse et vous avez donné votre, clairement, votre avis, c'est ça qui nous intéresse. Il est 23 déjà, malheureusement.
Mais juste un mot.
Ou pas. Non, il n'y a pas de mot. 9h24. Non, vous parlerez tout à l'heure parce que Thomas, il est avec nous et je le salue. Thomas, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous êtes bien coiffé.
Il aurait dû se coiffer.
A priori, non, mais vous êtes bien coiffé. Vous avez un petit ours blanc en plus, j'ai l'impression, sur le cœur.
Bien sûr, il faut protéger la planète, Pascal.
Comment ?
Il faut protéger la planète, Pascal.
Ah, ça, je ne vous le fais pas dire. Bon. Ah. De quoi ? On ne sait pas, il faut la protéger. Merci, cher Thomas. Vous êtes sur Europe 1 jusqu'à 11h, bien évidemment. Restez encore quelques secondes avec nous. Je donnerai la parole, évidemment, à l'ami Philippe Guibert. On parlera des Européennes, on parlera d'Emmanuel Macron qui a marqué un but hier.
Mais alors... Il y a un problème de gardienne de but, quand même.
Oui, il y a un problème de gardienne de but.
Il est statufié sur la ligne.
Non, je suis un peu d'accord. Alors, c'est très étonnant parce qu'il va parler aujourd'hui, le président de la République à la Sorbonne, il va parler d'Europe. Oui. Mais le Parlement est en session plénière. Donc les gens qui l'avaient invité, comme Mme Morano, disent « Mais vous me demandez de sécher au Parlement européen ?» C'est étrange.
Il y a des membres de l'opposition qui n'ont pas voulu y aller parce que c'est un meeting politique pour lancer la campagne de Valérie Ayer. Je veux dire, c'est pas comme maintenant en 2017 quand il fait son premier discours à la Sorbonne, voilà, où il le faisait pour donner une vision du président de la République. Là, c'est pour faire campagne pour sa candidate et éviter la catastrophe.
Ça sera pas décompté. Il a raison.
Ça sera pas décompté. C'est très discutable.
Ça pose une question quand même.
Pourquoi c'est très discutable que ça soit pas décompté.
Ah oui. Écoutez, les règlements. Vous êtes tous dans des normes, des règles.
Vous-même vous plaignez. Oui, pas tout à fait à tort. Que
vous êtes habillé comme Mélenchon, vous, maintenant.
Oui, d'ailleurs, c'est ma dérive gauchiste bien connue.
Voilà. Vous n'avez qu'une cravate rouge et...
Oui, tout à fait, je trouve que c'est bien. Et donc, vous plaignez de l'ARCOM qui vous décompte à la seconde près, à la fin de l'interview de Marion Maréchal, où elle dit « Stop, on arrête parce que vous n'avez plus le droit de parler ».
Bien sûr.
Donc, que le président de la République, en pleine campagne électorale des Européennes, vienne dire... Oh ben non, moi je parle en tant que président de la République parce que je vais donner mon programme pour l'Europe dans les 6 prochains mois. Est quand même une vaste plaisanterie.
Il est allé dire dans les locaux de Renaissance, la place qui est la mienne, je viendrai vous aider. Il va le faire
Et la semaine dernière, le comte de l'Élysée a même supprimé un point presse qu'il faisait avec Valérie Ayer parce que vous n'avez pas le droit de vous servir du comte de la présidence de la République pour faire campagne pour les européennes ou pour une autre.
Non, mais j'en ai un peu assez de toutes ces normes.
Ah bon?
Oui, là-dessus.
Dérégulons tout.
Je rêve qu'effectivement on puisse inviter les uns les autres et parler comme ils veulent, bien sûr.
Mais à ce moment-là, ça doit quand même se passer qu'il y a un minimum d'équité, quoi.
Eh bien, mais il y a 400 chaînes, il y a des réseaux sociaux, l'équité, vous pensez que ça change quelque chose? Que le président de la République, vous pensez que ça va faire changer une voix?
Ah, ça va peut-être en faire ça.
Allez, la pause. À tout de suite.
Peut-être moins après le discours.
À tout de suite. Il est 9h33. Nous sommes en retard, Somaïa Labidi. C'est à vous pour le rappel des titres.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un jeudi noir en perspective dans les aéroports. 75% d'annulations à Orly, 65% à Marseille. Plus de la moitié des vols annulés à Roissy. Les contrôleurs aériens ne lâchent rien et comptent bien obtenir des hausses de salaire. Couvre-feu imposé pour les mineurs de moins de 13 ans à Penn Mirabeau près de Marseille. Décision qui sera effective dès ce soir et jusqu'au 31 août prochain. Interdiction donc pour ces jeunes de sortir seuls entre 23h et 6h du matin. Et puis à l'instar des campus américains, Sciences Po occupé par des étudiants pro-Gaza, intervention des policiers cette nuit au sein de l'établissement parisien pour les expulser. Une occupation, disent-ils, pour alerter sur la situation dans l'enclave palestinienne et réclamer un cessez-le-feu immédiat.
Eh bien, merci beaucoup. Et vous pourrez voir, il y a une jeune femme qui témoigne, que, elle s'appelle Olivia. Je suis Olivia, née de la GPA, de mère porteuse. Et aujourd'hui, je me bats pour abolir la gestation pour autrui, qui détruit la vie de beaucoup d'enfants. Un acte égoïste, dit-elle, qui oublie l'intérêt de l'enfant. C'est ce que vous disiez. Bon, on va terminer ce chapitre. Et je vous donne la parole, effectivement, vous voulez dire
que... Non, je voulais juste ajouter, moi aussi je suis hostile à la GPA, hein, mais je constate que dans l'opinion publique, non seulement 60% des Français y sont favorables, et en 10 ans, ça a augmenté de façon considérable. Donc c'est pas simplement les moins de 30 ans qui sont favorables à la GPA, ça va largement dans la population active. Et quand on pose la question sur la marchandisation de la GPA, est-ce qu'on doit indemniser la mère porteuse ? Eh ben les Français sont partagés à 50-50. Et donc ça veut dire que même le principe de la marchandisation, qui à titre personnel me choque profondément, eh bien, ce principe-là, il est pas, c'est très partagé dans l'opinion.
Eh ben, merci en tout cas, monsieur Dorido, d'être passé par notre plateau. Merci d'avoir été aussi clair. Et puis, moi, j'écoute toujours les spécialistes. Et vous, vous êtes chaque jour au contact des enfants qui souffrent, parfois, et parfois avec un père aussi et une mère, j'allais dire de manière plus classique.
Nous sommes 8 milliards sur Terre. Ça va pas s'arranger. Donc, oui, il y a de la souffrance. Partout. Rien ni personne n'a le privilège, hélas, du malheur et de la souffrance.
Mais merci en tout cas, parce que c'est un sujet sur lequel, j'imagine, nous allons revenir. Alors, les européennes, c'est dans 5-6 semaines. Vous savez que, paraît-il, il y a 71% des gens, des Français, qui ne savent pas qu'il y a des élections européennes dans 5 semaines.
Mais oui,
c'est toujours c'est le cas l'élection. Pour les Européens.
Les Européennes,
mais c'est 71%, ça ne vous étonne pas, quand même 71% des gens.
Il y a beaucoup de gens qui vivent en dehors de la politique. Hein.
Et des réseaux sociaux.
Non, mais c'est 71%.
Oui, c'est énorme.
Ouais. Mais ils font quoi ?
Ils vivent où ? Ils ne s'intéressent pas à la politique.
Mais ils s'intéressent à quoi ?
À leur vie, à leur boulot.
Pardonnez-moi, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ça veut dire qu'il ne faut pas... Faut pas ouvrir une télévision quand même.
Il y a peut-être des raisons. Ils ont été consultés en 2005 sur un référendum. Ils ont dit non. Après, ça fait oui.
Mais ça, c'est autre chose.
Désenchantement civique. Bien sûr. Non, vous avez un discours qui les culpabilise.
Mais ils sont même pas au courant.
Le désenchantement civique qui peut passer par le fait qu'ils n'ont pas.
Mais ça, c'est pas la même chose.
Si, le désenchantement peut faire qu'ils n'ont pas vu à l'agenda le 9 juin. Mais il y a des raisons qui nourrissent ça.
Bah, écoutez, peut-être. Un sondage sur les intentions de vote des musulmans. Je vous propose de voir le sujet de Mathieu Devès, parce que je dis depuis hier, en voyant ce chiffre, que finalement, je trouve qu'il est très peu élevé. 38% des électeurs musulmans souhaitent voter pour Manon Aubry. C'est-à-dire que la stratégie de la France insoumise,
c'est ce que je vous dis depuis,
n'est pas aussi efficace. Qu'on ne le dit, alors que souvent j'entends que c'est important ce chiffre.
Et d'autant plus qu'on ignore, enfin on va voir le sondage,
oui.
Mais c'est des électeurs musulmans qui participeront aux européennes. On est sur 50% d'abstention. Donc le vrai chiffre, c'est pas 38%, il faudrait le diviser par deux.
Par deux, évidemment. Donc voyons le sujet de Mathieu Devès.
Le constat est sans appel. Lors des élections européennes, une grande partie des électeurs musulmans envisagent de voter pour la liste insoumise, portée par Manon Aubry. Voici les résultats détaillés du dernier sondage Harris Interactive et Toluna. 38% des musulmans ont ainsi l'intention de voter pour la liste LFI, 14% pour la liste menée par Raphaël Glucksmann. La liste de la majorité présidentielle, 6%, et celle du Rassemblement National, 5%, recueillent des scores bien plus faibles auprès des électeurs musulmans. Selon ce politologue, c'est notamment le résultat d'une stratégie électorale de la France insoumise.
Jean-Luc Mélenchon a échoué deux fois en 2017 et en 2022 à quelques centaines de milliers de voix près pour être au second tour de la présidentielle. Et leur calcul, c'est de se dire que ces voix, eh bien, il faut aller les puiser vers des abstentionnistes habituels.
Autre enseignement de ce sondage, la situation en Israël et à Gaza est l'une des principales préoccupations des électeurs musulmans, après le pouvoir d'achat, la santé et l'emploi. Les élections européennes auront lieu du 6 au 9 juin prochain.
Oui, mais là encore, Mathieu dit, c'est une des principales. Oui, mais après le pouvoir d'achat, en fait, ça n'arrive pas du tout en tête.
Vous avez vu les proportions.
Assez loin derrière.
Oui, assez loin. Donc là, il y a même, entre ce dont nous parlons, nous, et la réalité sur le terrain, il me semble qu'il y a une petite différence quand même.
Oui.
Et évidemment, plus grande encore avec ce que dit Jean-Luc Mélenchon et la réalité du terrain.
Absolument. Et ben toute sa stratégie. Alors est-ce qu'elle vise les européennes ou est-ce qu'elle vise à plus long terme? Mais en tout cas là, pour l'instant, ça ne marche pas. Les électeurs musulmans sont pas si différents sur leurs préoccupations que les Français en général.
Bon, c'est vrai.
D'ailleurs, il faut soulever que comparativement à 2022, ce pourcentage a énormément chuté. Hein, au présidentiel, il avait fait.
C'était les votants. C'était les votants.
Voilà. Bon. Mais attention,
c'était les votants.
C'était dernier. 69%. Et là, on voit qu'il y a quand même un net recul dans l'intention de vote des électeurs de confession musulmane par rapport à la France insoumise, parce que Philippe l'a justement dit. Certains réalisent que Jean-Luc Mélenchon agite une islamité qui ne correspond pas à leur, entre guillemets, foi, c'est-à-dire la question palestinienne dans la surenchère islamiste, la question de l'islamophobie, entre autres, à travers la question, le problème de l'abaya, etc. Et il y a énormément de Français de confession musulmane, si vous les écoutez, qui prennent beaucoup de recul par rapport à cette agitation identitaire.
Dernier sondage que je voulais vous montrer, Jordan Bardella est toujours à 31,5, Renaissance à 17, Raphaël Glucksmann est à 12. En fait, ça ne change pas beaucoup. Alors Emmanuel Macron, hier, lui, a joué. Alors, vraiment, j'ai de l'affection pour Jacques Vendroux, j'ai de l'affection pour le variété, mais est-ce que c'est la place d'un président de la République?
Et pour Carl Olive, et pour Carl Olive.
Et j'aime bien Carl Olive aussi, mais...
C'était pour la bonne cause, c'était pour les...
Oui, il y a eu 57 000
Philippe Bilger.
57 000.
Mais alors qu'il soutienne les pièces jaunes tant qu'il veut, mais ce président de la République n'est à l'aise que dans les démarches périphériques par rapport à l'essentiel de la présidence. Alors, ça n'est pas aussi grotesque que certaines pantalonnades à l'Élysée, mais tout de même, j'aspire à un président...
Est-ce qu'on peut voir le pénom
27, un petit peu classique. Une bonne fois pour toi.
Bah oui, on va voir le pénalty, bon, Pascal. Bah oui.
Alors, je vais vous montrer deux versions du pénalty, si vous voulez. Je vais vous montrer d'abord la première version, la version classique.
C'est pas peine de montrer au ralenti, c'est déjà le fait.
La version classique. La version classique.
Alors, on va regarder ça. C'est drôle quand même.
D'abord, je trouve que le pénalty est plutôt bien tiré, bien évidemment.
Bon, la version classique. Le goal est très vif.
Le goal n'est pas terrible. Bon, et alors, je vais vous montrer la deuxième version commentée par Thierry Roland.
Je ne dis rien, je vous fais remarquer. Je ne dis rien. Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme. Ouais.
C'est bon. Bon, évidemment, vous aurez reconnu le fameux pénalty de Guadalajara en 86. Et c'est Jean-Michel Larqué qui est avec...
Mais là où il y a aussi un comique de répétition, c'est que c'est le deuxième pénalty pour le président Macron, marqué, mais dans les mêmes conditions. C'est-à-dire avec un gardien de but qui est statufié, qui est en arrêt sur sa ligne, tout simplement parce que le mec, il est sidéré par la situation. Il ne veut pas mettre la France en échec, parce que c'est le président qui doit frapper.
Il est dans le petit filet, quand
même. À mon avis, il a eu peur d'un contrôle fiscal.
Non, mais...
il est statufié.
Alors,
qu'est-ce qu'on ferait à sa place?
Moi, ce qui m'a frappé hier, c'est qu'effectivement, là encore, tout l'espace médiatique... s'amusait et trouvait sa sympathie.
Mais oui, rigolo, c'est parce que ça l'est. Rigolo, oui.
Je trouve que la presse, globalement, elle est gentille avec Emmanuel Macron depuis 2017.
Très.
Globalement. Et elle est gentille pour une raison, c'est que la presse a tellement peur de Marine Le Pen qu'elle est très gentille avec Emmanuel Macron. Pour le faire court.
Pas depuis 2022.
Pour toutes ces incongruités.
Pour le faire court. On va le faire comme ça. Elle a tellement peur. Bon. Et effectivement, donc j'étais frappé hier en parlant avec... Alors c'est toujours pareil, tu parles à droite, à gauche, etc. Tu vois, les gens ils disent mais ça va pas quoi. Il n'a pas joué au football sur un terrain. Il y a une sorte de bon sens qui se met en place. Les gens disent
il est tellement critiquable sur le fond.
Il n'a pas été sur un terrain de football mercredi après-midi ou un jeudi après-midi. Un mercredi, c'était hier mercredi.
Imagine
après-midi.
Le général de Gaulle.
Ça suffit ça.
C'est une très bonne réflexion.
Mais non, mais donc c'est tout. Alors je sais pas. Alors là aussi, le monde a changé. Bon. Le monde a changé.
Sport et politique, ça a toujours existé.
C'est sympathique d'ailleurs.
Oui, c'est sympathique.
Sport
et politique, ça a toujours existé.
Oui, mais pas à ce point-là. Oui.
Henri IV, quand il arrive à Paris. Non, mais quand il arrive à Paris. En 1294, Henri IV. Non, il arrive à Paris.
Vous n'en savez rien, Henri IV. Mais qu'est-ce que vous en savez ?
Henri IV, il y était. En 1294, il arrive à Paris.
Il est venu sur CNews.
Et le lendemain de son arrivée à Paris, il participe à une partie de jeu de pommes.
Ah, bah oui, mais c'était très à la mode dans la
réalité. Exercice très physique à l'époque, et il demandait à ce que ses adversaires soient de haut niveau. C'était un vrai
Et là, c'est encore autre chose, c'est le côté chevalerie, il fait de la compétition. C'est pas le cas. Et puis Henri IV...
Henri IV... C'était très populaire. Bon. T'avais 500 jeux de pommes dans Paris. Non, tu regarderas, je t'envoie l'article. T'avais 500 jeux de pommes dans Paris. T'avais bien sûr pour les nobles, mais tu avais des jeux de pommes populaires.
Que disait la presse à l'époque ?
Il est d'ailleurs allé au cœur de Paris pour jouer justement dans un espace où ça allait se savoir rapidement.
Bon, écoutez, je n'imaginais pas que cette comparaison, qu'on ferait une comparaison entre le pénalty d'Emmanuel Macron et le jeu de pommes d'Henri IV. Mais bon, Gaza manif à Sciences Po. Ce qui se passe à Sciences Po, c'est sidérant. Une cinquantaine d'étudiants organisés un rassemblement pro-palestinien. Les étudiants ont accroché une banderole aux couleurs du drapeau palestinien avant d'installer une dizaine de tentes, dans la cour du campus. Ils réclament que Sciences Po coupe ses liens avec les universités et les entreprises qui sont complices du génocide à Gaza. Et à la fin de la répression à l'encontre des voix pro-palestiniennes sur le campus. On va regarder cette séquence qui est...
Les CRS ont dû évacuer.
Oui.
Les CRS ont dû évacuer dans...
La ministre de l'éducation supérieure, elle n'était pas sur son ce matin. Elle avait piscine.
Il y a une ministre de l'enseignement supérieur ?
Non, mais elle avait piscine. Mais c'est là qu'elle devrait être à Sciences Po ce matin, si elle faisait vraiment son job.
Et vous imaginez, vous êtes un étudiant juif à Sciences Po ?
Comment ?
Vous êtes un étudiant juif à Sciences Po, vous imaginez ce que vous vivez en ce moment ?
Enfin, c'est invraisemblable.
Vous êtes de l'Union des étudiants juifs de France ?
C'est invraisemblable. Alors, voyez la séquence. Voyez la séquence. Et puis à Nantes, là, si j'ai bien compris, la mairie s'est enfin décidée à enlever le drapeau palestinien qui recouvrait visiblement
Il y a un drapeau israélien qui avait
été laissé
les deux drapeaux.
Comment ? Mais elle aurait pu laisser les deux drapeaux. Mais c'est très intéressant ce qu'a fait Madame Roland. Elle n'a pas bougé quand c'était le drapeau palestinien. Et quand c'est le drapeau israélien, elle fait nettoyer toutes les marches. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'elle-même a provoqué la réaction qui dure à Nantes depuis trois semaines à moitié. Et puis au bout d'un mois, elle dit, je vais quand même l'effacer.
Au début de semaine, on s'était dit, mais c'est pas mal qu'il y ait les deux drapeaux.
Y aurait-il un deux poids, deux mesures ?
C'est tellement révélateur.
Voyons le sujet.
Parce qu'en plus, c'était intelligent de ceux qui ont mis le drapeau israélien. Ils l'ont pas mis sur le drapeau palestinien, ils l'ont mis après.
Exactement.
Donc il y avait les deux drapeaux qui pouvaient cohabiter, ça serait pas mal.
Mais Madame Roland, elle est dans la stratégie de Mélenchon. Elle pense qu'aux prochaines élections, exactement, elle sera élu avec les voix de l'extrême gauche.
Honnêtement, Johanna Roland a pris des positions qui sont très différentes de celles de Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet.
Mais pourquoi elle laisse le drapeau palestinien pendant un mois
dans
la
question,
ville ?
Mais on ne peut pas dire qu'elle soit du tout sur la position.
Alors je vous pose la question. Pourquoi laisse-t-elle un drapeau palestinien dans la ville pendant un mois ?
Alors, moi, je vais vous dire.
Bon, merci. Le sujet de Michaël Chaillot, vous me le direz après quand vous aurez réfléchi. Mais il n'y a pas de réponse parce qu'elle défend.
C'est scandaleux qu'il y ait un drapeau palestinien ? Je vous renvoie la question.
Seulement palestinien, c'est scandaleux. Enfin,
en quoi on a le droit d'être.
À Nantes ? Vous avez le droit. Et alors, vous avez le droit de mettre les drapeaux de toutes les nationalités palestiniennes.
C'est la même chose qu'à Sciences Po.
Et alors, pourquoi,
on a le droit d'être pour un État palestinien.
Et alors, pourquoi le jour où il y a un drapeau israélien, elle fait
nettoyer les marches ? Là, il se met à la faute.
Ah, voilà. Oui, c'est à ce moment-là.
Mais sinon, en soi, d'être favorable à un État palestinien, je suis désolé, c'est pas.
Mais c'est une position.
Alors, voyons le sujet. S'il vous plaît.
Mais même
voyons le sujet de Michaël Chaillou à Nantes.
Les équipes anti-tag de la métropole nantaise ont été déployées en tout début de matinée pour effacer les deux drapeaux des marches de la butte Sainte-Anne, le plus grand escalier de la ville. La veille, les deux oriflammes cohabitaient après que le collectif Nous Vivrons soit venu depuis Paris peindre le drapeau israélien à côté du drapeau palestinien laissé intact par la mairie. Mais l'emblème israélien a été recouvert de peinture rouge ce mardi.
Le message, il est bien plus violent qu'une dégradation, comme l'a souligné la mairie de Nantes. C'est un message qui appelle à la haine des Juifs. On attend une condamnation ferme de la mairie de Nantes sur les actes odieux qui ont été commis en pleine journée, hein, il faut quand même le rappeler, et qui ne constituent pas une simple dégradation d'une œuvre artistique en centre-ville de Nantes.
La mairie PS de Nantes, jointe par téléphone, estime qu'à partir du moment où il y a eu des dégradations, il est logique qu'on efface tout. Début mars, une croix celtique, symbole d'extrême droite, avait été retirée. L'opposition municipale de droite se félicite que l'escalier de la discorde ait été nettoyé. Reste à savoir pour combien de temps l'espace public étant devenu un support des luttes politiques.
Et les Nantais ont reconnu la butte Sainte-Anne, où il y a également le musée Jules Verne, juste Absolument. Au-dessus de la butte Sainte-Anne, parce que Jules Verne est né à Nantes, comme vous le savez.
Ah, je ne le savais pas.
Mais si, c'est héros nantais.
Alors il faut rectifier ce qu'on a dit, c'est-à-dire la maire de Nantes a pris cette décision parce que le drapeau israélien était souillé de peinture rouge. Il aurait été respecté, peut-être que les deux symboles, qui étaient Absolument. Une image positive, auraient été conservés.
Oui.
Ah si factuellement.
Eh bien, si vous le dites.
Oui.
Enfin, Pascal.
Non, mais écoutez, si vous le dites. Non, alors, en revanche, on était
à. Côté des choses.
On parlait de Sciences Po tout à l'heure, et ce qui se passe à Sciences Po, en fait, ça arrive aux États-Unis. Et on va voir ce qui s'est passé avec ce sujet dans les facs américaines. C'est Tancrède Guillotel qui fait ce sujet, et c'est toute la politique de Richard de Coin qui est aussi un drame. Hein. C'est-à-dire que Sciences Po est devenu un drame. Avant, c'était une école qui était faite pour fabriquer l'élite française et ceux qui allaient travailler, notamment dans les institutions de France. On a voulu en faire un campus à l'américaine, ce qui n'a absolument aucun sens.
Ça avait du sens dans la compétition entre les grands centres.
Universitaires. En fait, ce qui est drôle dans nos discussions, il y a un moment quand l'échec est là, on peut se dire on est trompé. Jamais vous vous dites ça.
Dévoiement.
En fait, jamais vous vous dites on s'est trompé sur rien.
Toutes les grandes écoles sont en compétition.
Mais je m'en fous de toutes les grandes écoles.
Pascal, on vit dans la globalisation.
Ils sont fascinants.
En fait, ils sont fous. Vous êtes.
Ah, ça ne justifie absolument pas.
Le résultat est catastrophique dans 50 000 domaines et vous êtes toujours là. Il n'y a aucun moment où vous dites oui, on a fait n'importe quoi avec Sciences Po. On ne doit pas avoir les mêmes cerveaux tous les deux.
Non,
on a fait juste
n'importe quoi. Non, effectivement, on n'a pas les mêmes cerveaux.
Voilà, parce que
moi, je conçois qu'on vive dans un monde.
Est-ce que le résultat de la globalisation, est-ce que Sciences Po est moins bien aujourd'hui qu'il y a 30 ans? Oui ou non?
Oui, je pense.
Bon, c'est tout.
Mais je pense que c'est pas l'ouverture en soi de Sciences Po qui crée ça.
Ah si.
Mais Philippe, vous disiez que
c'est là où. Donc, pardon, je termine. Bon, vous viviez dans un monde qui
n'est pas beaucoup aujourd'hui.
Je voulais juste dire, juste un mot, vous dites. Vous ne voyez pas pourquoi ça pose un problème.
Non, ça c'est une technique pour le coup qui est monstrueuse. Enfin,
Je retermine d'une phrase. Alors, vous ne vivez plus dans le monde des années 70 et 80.
Et ben, je regrette.
Où la compétition était entre des écoles.
Mais qu'est-ce que j'ai de la compétition avec Sciences Po? Mais qu'est-ce que ça? Mais qu'est-ce que ces mots-là? Qu'est-ce que j'ai à faire de? Mais je m'en fiche de la compétition avec Sciences Po.
Vous pouvez pas vous en fiche de la réalité.
Mais pourquoi? Philippe avec le dévoilement.
Mais vous êtes les premiers à citer les classements internationaux.
Mais c'est pas la compétition, l'ouverture à la compétition. C'est l'entrisme idéologique du Hamas au sein de Sciences Po, bien sûr.
Mais vous êtes les premiers à faire sortir les classements internationaux à un moment que notre pays décroche.
Exactement.
Florence Berger-Blaclair a été interdite de Sciences Po. Jean-Luc Mélenchon, il fait une conférence. C'est ça qu'on dénonce.
C'est scandaleux. Mais Sciences Po n'a pas à être mise en compétition avec d'autres universités mondiale. Je demande à Sciences Po de fabriquer l'élite en France.
Mais ça,
je me fiche de recevoir les étudiants des États-Unis à Sciences Po.
C'est devenu une école de commerce, Sciences Po. Je caricature un peu.
Ah oui.
C'est devenu une école de commerce système de compétition entre grandes écoles occidentales.
Et bien là où vous avez tort, à mon sens, c'est que cette compétition ne sert qu'une chose, Monsieur Richard Descoings.
paix à son âme et ceux qui l'ont dirigé. Mais ça ne sert pas la France. Et tous ces gens qui dirigent, parfois depuis tant d'années, pensent à leur intérêt personnel et pas à l'intérêt général du pays.
Oui, mais vous pouvez pas. Là,
vive la France.
Je crois qu'après avoir dit ça, on peut mourir tranquille.
Vive la France.
Après, vive la... Tout vous ne pouvez pas vivre en dehors de la réalité, quoi.
Si, justement.
Mais la réalité, c'est que pourquoi ça pose un problème, cette manifestation pro-palestinienne? Parce qu'après, devant un amphi, Gautier, vous avez une étudiante juive qui se fait bloquer l'accès pendant un temps.
Gautier, oui, mais soyez gentil, parce que là, on est très en retard.
Oui, ça faisait 10 minutes que j'essayais de caser cette phrase, donc j'ai mis un point d'honneur.
Elle n'est pas très intéressante.
Ah bon?
Vous parlez beaucoup. Allez, la pause, S'il vous plaît, la pause.
Les procès de Moscou avec les deux communistes, là.
Madame, messieurs, nous recevons une légende.
Oui.
Non, c'est pas vous. C'est Paris Match.
Un autre.
Nous recevons une légende, Patrick Mahé.
Bonjour Pascal
Patrick
Pro.
Mahé. Vous avez dirigé Paris Match.
Oui.
Et
C'est un honneur.
C'est le numéro anniversaire, 75 ans.
Très beau, très bien, très réussi.
Et vous avez écrit également La légende de Paris Match.
Exact, 545 pages.
Et parfois avec notre ami Grimaud, que j'aime beaucoup, qui a travaillé à Paris Match.
Dominique, oui.
De temps en temps, tard le soir, lorsque parfois nous avons... pris un petit verre de vin, il imite Roger Théron.
Ah oui, c'est vrai.
Roger Théron qui était...
Les voix de bronze de voilà. Roger Théron.
Comment il disait Roger Théron quand il voulait mettre une ou choisir un titre? Comment il faisait?
Il disait... Bon, d'abord, il avait un geste des mains toujours par rapport aux photos. Il regardait les photos, souvent sur le sol, tel un metteur en scène de cinéma. Il disait, bon, écoutez, je crois qu'on a trouvé la couverture. C'était pas toujours gagné. Il fallait être bon, il fallait que le service photo apporte beaucoup de dossiers.
Et là, il était quelle heure à ce moment-là?
Les bouclages à l'époque, à la belle époque, à l'époque des 30 glorieuses, comme on les appelle parfois, mais qui continuent, qui perdurent, qui vont se renouveler. C'était 3h, 4h du matin, et on avait un directeur artistique très particulier, Guy Tria, qui était un champion de boxe amateur, qui avait sa couchette même, comme dans un bateau, à bord d'un bateau, au sein de la maquette, et qui, de temps en temps, se levait, écarquillait les yeux,
incroyable.
Disait « Ah non, ça va pas ». Mais c'est ainsi, et c'est grâce, d'ailleurs, à ça, qu'est née la devise du poids des mots et du choc.
Alors, on va en parler dans une seconde, puisque Somaïa Labidi va nous rappeler les titres, mais c'est vrai que la grande époque de match était rue François 1er, en face de la belle Ferronnière, et nous avons connu notre merveilleux
François Gragnon,
et les photographes de match étaient engagés sur leur physique. Il fallait qu'ils soient beaux.
Ça, c'est une citation de Gina Lollobrigida.
Il fallait qu'ils soient beaux et qu'ils sortent avec les filles. Et il disait même autre chose, parfois. Aller avec les filles.
On n'imagine pas du tout quoi.
Voilà. Et notre ami François Gragnon, ce n'est pas faire...
Qui a épousé Tessa Beaumont.
Exactement. Oui, et
la grande danse.
Qui a eu des jeunes femmes.
Il a eu un avion, Tessa Beaumont. Il a fait sa déclaration de mariage dans un avion.
D'accord. Mais, et qui a eu des stars, parfois, avec lesquelles il a eu, je dirais, une intimité. Ce n'est pas trahir sa mémoire que de dire cela. Somaïa.
Les ailes du mythique cabaret Le Moulin Rouge se sont effondrées cette nuit. Intervention des pompiers sur place dès 2h45 pour sécuriser la zone. Pas de blessés à déplorer. Quant à la direction, elle exclut le site tout acte malveillant. Des images spectaculaires. Non, ce n'est pas un film d'action, mais une scène qui s'est déroulée hier à Torcy. Peu avant 21h, le conducteur d'un véhicule qui faisait un rodéo a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle. Pas de blessés à déplorer. Quant au suspect Enzo, âgé de 20 ans, il a été interpellé. Et puis, une entrée payante pour lutter contre le tourisme de masse. Comme à l'entrée des parcs d'attractions, il faudra débourser 5€ pour accéder à Venise. Un billet obligatoire entre 8h30 et 16h heure locale. Pour le moment, le dispositif ne sera appliqué que pour 29 jours de grande affluence sur l'année.
Ça, c'est une bonne idée.
Oui,
on pourrait imaginer ça, effectivement, pour Paris également. Alors, on n'a pas vu le sujet de ce fait de la faculté américaine. De ce qui se passe, qui est le pendant de Sciences Po, parce que nous avons dérivé sur Sciences Po ce qui se passe aux États-Unis. Sciences Po n'est que la conséquence de ce qui se passe aux États-Unis. Voyez le sujet de temps créé de Guy Yotel.
Sur le campus de l'Université du Texas à Austin ou sur celui de l'Université de Californie du Sud à Los Angeles, des manifestants pro-palestiniens viennent défier la police. Après les dizaines d'interpellations en début de semaine dans plusieurs universités américaines, la journée d'hier a été le théâtre d'un regain de tension entre forces de l'ordre et étudiants américains pro-palestiniens. En visite à l'université de Columbia à New York, Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants du Congrès, a demandé plus de fermeté.
Si la situation n'est pas maîtrisée rapidement et si ces menaces et intimidations ne cessent pas, le moment est venu de déployer la garde nationale. Nous devons mettre de l'ordre sur ces campus. Ces manifestants sont menaçants, intimidants et ils disent qu'ils s'en prendront aux étudiants juifs.
Sur le campus de l'université new-yorkaise, où les manifestants ont installé un campement depuis la semaine dernière, beaucoup d'étudiants sont inquiets.
Je ne me sens pas en sécurité parce que beaucoup de ces manifestants ont tendance à être assez violents ou à proférer des insultes antisémites. Lorsque je viens sur le campus, je cache souvent mes symboles juifs pour ma propre sécurité.
Il y a vraiment beaucoup de tension. Beaucoup de mes amis sont restés debout jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. Ils n'arrivaient pas à dormir à cause de tout ce qui se passait.
Hier, la Maison-Blanche a également réagi, réaffirmant que le président Joe Biden soutenait la liberté d'expression dans les universités, tout en dénonçant toute rhétorique haineuse ou cas de violence.
Bon, on voit une similitude entre les deux facultés.
Et c'est frappant de voir à quel point les causes les plus délétères sont protégées par leur extrémisme même. C'est effrayant.
Les causes délétères, c'est-à-dire
délétère, je considère que lorsqu'on soutient la cause palestinienne en n'acceptant à aucun moment de l'équilibrer avec le reste qui est capital, c'est délétère.
Mais ne perds pas de vue, cher Philippe, qu'il est possible de défendre la cause palestinienne avec une solution à deux États sans nourrir de l'antisémitisme.
Oui, mais ça exige un équilibre intellectuel et une impartialité que ces malades n'ont pas. C'est très clair de mon point de vue.
Je voulais vous donner également dans cette information, en Iran, le tribunal iranien a condamné à mort un célèbre rapport iranien emprisonné depuis plus d'un an et demi pour son soutien au mouvement de contestation de 2022 déclenché après la mort de Mahsa Amini à Rampo. C'est un média local qui le dit. Vous savez ce qui m'étonne, cet homme est condamné à mort et parmi les charges qui pèsent contre lui, corruption sur terre. C'est quasiment la pire charge qui puisse exister en Iran. Et il n'y a pas un rappeur français que j'ai entendu être solidaire avec lui. Pas un seul rappeur. Je voudrais vraiment tous ces rappeurs. Alors vous voyez, écoutons quelques secondes ce rappeur iranien. Ça, c'est courageux. Mais ce qu'il fait, c'est pas attaquer le Rassemblement National simplement en France, à Paris et tranquillement. Ouais. Ça, attaquer les mollahs, ce régime. Et aujourd'hui, il va payer de sa vie, il sera pendu, au bout d'une grue. C'est ça ce qu'a dit.
Et cet homme a été, depuis le début, d'un courage inouï. Oui. Depuis le début. Et ça rend très secondaire, pour ne pas dire vaine, nos misérables polémiques françaises.
Je suis d'accord avec vous. Et, et là, on n'entend personne dans la communauté. C'est ça qui est
sûr. On peut aussi en dire autant des femmes en Iran et en Afghanistan qui sont gommées de l'histoire et dont plus aucune néo-féministe ne parle.
Elles sont huées quand elles se rendent à ces rassemblements, comme Sandrine Rousseau qui avait été huée pour avoir dit que le voile pouvait être un embellissement de la femme.
Oui. Non mais ce deux poids, deux mesures qu'on souligne sans arrêt dans cette émission, je suis sidéré de ça. Et on sait pourquoi, parce que manifestement, pour des raisons que chacun peut comprendre, les prises de parole contre l'Iran ne sont pas dans l'espace...
Et on comprend aussi la portée des reportages, quand des reportages sont faits et arrivent de ces pays-là, les risques encourus par les reporteurs et ceux...
Bon, un petit mot sur la SNCF, on en a beaucoup parlé hier, mais
on
c'est vrai que...
On a un cette semaine.
C'est vrai que notre ami, le ministre c'est un champion, oui, notre ami le ministre des Transports, là, M. Vergrit...
Qui était en duplex hier sur une chaîne concurrente et qui a dit que la SNCF était une entreprise privée. Alors j'ai dû réécouter trois fois l'extrait, je l'ai envoyé à Lomi Guillaume qui est notre journaliste éco, je lui ai dit « t'as entendu la même chose que moi ?» Oui, c'est une entreprise privée, selon notre nouveau ministre des Transports, Patrice Vergrit, qui a remplacé Clément Beaune. On rappelle que le seul actionnaire de la SNCF, c'est l'État, et que dans les statuts de la SNCF, il est dit que c'est une entreprise publique qui a vocation à rester une entreprise publique.
C'est des vedettes, hein. Je vous jure, c'est des vedettes.
Celle-là, il fallait la faire.
C'est vraiment des vedettes, mais il n'y a jamais de sanctions d'ailleurs. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « bon bah écoute, vieux ».
Peut-être qu'on va en prendre un autre. En fait, peut-être. Non.
En fait, voilà. Ce que je tentais de dire, c'est que cet accord s'était fait sans eux, entre les syndicats et les patrons de la SNCF, qui annulaient donc la réforme des retraites.
C'est juste l'accord de la honte.
On a été un certain nombre à critiquer cette réforme des retraites,
oui.
En disant que c'était peut-être, ça avait été mal mené.
Oui, enfin, il part à 54 ans.
Et mal voté, d'ailleurs, oui. Puisqu'il n'y a pas eu de vote, oui. Ni de consultation en français. Oui. Qu'une catégorie de salariés puisse revenir dessus, c'est très bien. Et j'espère que d'autres catégories pourront en profiter.
Très bien. Non, mais vous mettez contre la loi. Très bien. Il y
a 300 millions. Ça coûte 300 millions selon l'IFRAP.
Vous affichez contre la loi, vous avez le droit.
Parce que vous pensez que ça a été bien fait, que ça a été du bel ouvrage.
Ah non, moi je pense que ça a été n'importe quoi, comme tellement de choses depuis de nombreuses années dans ce pays, qu'effectivement, cette réforme... Mais ce qui n'est pas normal quand même, et si vous me permettez, les retraites publiques sont déficitaires, 30 milliards. Les retraites privées sont excédentaires. Quand on propose une réforme des retraites, on n'attaque que le public, on n'attaque que le privé, et on ne touche pas au public. On ne touche pas au public. Et non seulement on ne touche pas au public, mais la SNCF se fait un petit régime aux petits oignons, et rien que pour eux, avec cette chose folle, c'est-à-dire que 30 mois avant ta retraite, tu es en cessation d'activité. C'est génial.
Mais tu ne travailles pas juste les 18 derniers en touchant 75% de ta...
C'est génial.
Attendez, ne pas travailler, toucher 75% de son salaire, c'est quand même pas mal.
Franchement, c'est un truc, c'est Kafka. Les 18 derniers, tu dis... Hey, vieux, tu vas pas travailler.
Mais tu vas toucher 75%.
C'est des génies, ces gens-là. Et l'État qui est actionnaire, avec un ministre qui ne sait même pas que la SNCF est publique, dit c'est pas notre problème. Bon, ben, quand tu es à ce niveau.
Il arrive en poste,
quand
tu es
à ce niveau.
Quand il dit que ça ne coûtera pas un euro aux Français,
c'est extraordinaire. Ou de ou d'incompétence, bon, ben, après, tu laisses tomber. Quoi.
Ça remet à sa juste place les propos d'Emmanuel Macron qui, à une certaine époque, vantait les ministres amateurs.
Bon.
Soyez fiers d'être des amateurs.
Dernière chose avant de parler de Paris Match, effectivement, ce refus d'obtempérer, parce que ça, c'est une séquence qui est saisissante. Et c'est vrai que ça s'est passé hier à Torcy, peu avant 21h. Un véhicule faisait un rodéo qui était filmé par des spectateurs. La police a voulu contrôler le conducteur qui a refusé d'obtempérer. Quand je vois, bien sûr, la difficulté d'être sur le terrain quand tu es policier et quand je vois comment ils sont traités parfois, il a pris la fuite avec une conduite dangereuse, il a percuté des barrières métalliques et finit par retourner la voiture sur le toit. Il n'y a pas eu de blessé. Vous voyez,
19 ans.
Vous voyez cette séquence que vous montrait Somaïa il y a quelques secondes.
Wesh! Le tueur à ma mère en live! Double cosmosite, les gars! Wesh! 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 Wesh!
Et je m'interroge quand même sur la personne qui filme.
Visiblement, il est choqué.
Oui, quoi, il est choqué. Il commente ça comme un match de foot.
Ouais, c'est ça qui est dérangeant. Hein.
C'est-à-dire que, enfin bon.
On dirait que. Ça doit être le monde de genre. De jouissance.
Ouais, voilà. Oui, non, oui.
Un peu
de grande surprise.
Bon, écoutons Julien Chénardy qui est d'Alliance.
Mes collègues, eux, tentent de poursuivre l'individu, mais ils doivent également garder à l'esprit qu'il ne faut pas rajouter, bien évidemment, à l'accident. Ou en tout cas, cette poursuite, il faut pas rajouter un accident et donc des morts. Donc, c'est eux déjà, bien évidemment, qui essayent de préserver leur intégrité physique, donc de conduire de manière sécurisée pour ne pas eux-mêmes être victimes d'un accident. Et puis, quand on poursuit, en fait, un véhicule commet un refus d'obtempérer, notamment en centre-ville, en pleine journée, je peux vous dire que c'est pas facile. Et pour mes collègues, c'est un stress.
Il vient régulièrement nous voir, Patrick, la légende de Paris Match. J'ai envie de dire que quand Match est créé en 49, c'est la télé avant la télé.
C'est la télé, exactement. Parce que les grands reportages éclatent spontanément. En fait, pas spontanément. Le véritable point de départ, c'est 1950, c'est la conquête de l'Annapurna. La conquête de l'Annapurna se passe à notre printemps à nous, en 50, mais il n'y a aucune photographie. En fait, il y a un feuilleton. Qui est ponctué dans l'horreur. C'est le quotidien L'Horreur à l'époque qui le ponctue. Mais il n'y a pas de photos. Et les photos n'arrivent qu'en plein été, au cœur de l'été. Là, il y a un débat au sein de la rédaction en chef. On ne va quand même pas passer des mecs congelés, surgelés, en plein mois d'août, à 8000 mètres d'altitude. Et soudain, le rédacteur en chef de l'époque dit, si, on va les passer. Il y a un vrai débat, ça passe, et ça va sauver le journal qui ne marchait pas trop à l'époque. Il a eu 8 à 9 mois difficiles avant de décoller grâce à l'Annapurna. Donc 1950, c'est le point de départ de Herzog qui conquiert l'Annapurna et qui rend une sorte de fierté à la France dans les années d'après-guerre. Parce que l'après-guerre, c'est qui ? C'est Marcel Cerdan, finalement, qui fera la couverture du numéro 3 de Paris Match, Marcel Cerdan. C'est celui qui rend la fierté à la France sur le plan sportif. Et l'Annapurna, c'est Herzog qui plante le drapeau tricolore au sommet de l'Annapurna à 8 mètres d'altitude.
Paris Match vendra jusqu'à combien d'exemplaires ?
Le record de vente, c'est la visite de la reine d'Angleterre en 1957, 2 231 574 exemplaires. C'est quand même un record.
C'est énorme.
Et c'est vrai que c'est la télé. Donc c'est la télé.
Aujourd'hui, forcément, l'attrait pour les uns, c'est très dur d'ailleurs aujourd'hui, la presse, pour cette raison.
Très, très dur.
Très attaqué. Pourquoi ? Parce que.
Mais pas que par la télévision. Non, mais c'est pas seulement la télévision, parce que la télévision s'est développée quand même beaucoup dans les années 70, années 80. Ça n'empêchait pas Paris Match de faire des ventes à 1,8 million ou 1,5 million. C'est beaucoup plus maintenant les réseaux sociaux, les gens qui ont le nez rivé sur leur portable ou sur leur tablette. On voit de moins en moins de gens qui lisent. Quand vous allez dans les trains, par exemple, vous voyez des gens sur des tablettes. Oui. Alors qu'à l'époque de la création de Paris Match, un des rédacteurs en chef de l'époque avait dit que cette formule magique, Paris Match, il avait un accent d'Occitanie, le journal que l'on n'oublie pas dans les trains. Mmh. Ça veut dire que les gens le prenaient avec eux, le gardaient précieusement chez eux.
Alors, Paris Match est un journal de stars. Et effectivement, Belmondo, Delon, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de stars. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de stars en cinéma, il n'y a plus de stars en politique. Il n'y a plus que des stars, me semble-t-il, en sport. C'est-à-dire que les spas, où les gens ne veulent plus de stars, où tout le monde est star, je ne sais pas comment le dire, mais il n'y a plus de stars. Donc, est-ce qu'il y a une difficulté pour aujourd'hui ? Qui ferait de match et serait certain de vendre des milliers d'exemplaires ? La dernière fois, c'est la mort de la reine d'Angleterre, je crois.
Le dernier bon exemple, que je trouve très intéressant, c'est la couverture du Paris Match de la semaine précédente, où on voyait Anthony Delon et Paul Belmondo refaire, donc c'est un remake, le geste symbolique que qu'Alain Delon et Jean-Paul Belmondo avaient fait en 94, je crois, quand Cannes les avait boycottés, le Festival de Cannes les avait boycottés. Et ils avaient posé, en sautant sur un trampoline, on ne voyait pas le trampoline forcément, selon une technique d'un photographe américain, Philippe Halsman, qui avait inventé la jumpologie. La jumpologie, il a fait sauter Marilyn Monroe et même François Mauriac, il faut le savoir, même François Mauriac, trampoline.
Il y a eu une expo formidable il n'y a pas longtemps.
À l'époque, donc, ils avaient fait cette photo, c'est Michel Marisi qui l'avait faite, et Match avait titré « Cannes, on n'en a rien à cirer ». Eh bien, là, en 2024, les enfants, puisqu'il n'y a plus de stars, et vous avez tout à fait raison, il n'y a plus que maintenant que des intermédiaires qui empêchent d'ailleurs d'avoir le contact direct avec les stars. Je ne parle pas d'attachés de presse, mais les intermédiaires, les agents, les fameux agents, et qui empêchent en fait d'avoir un contact direct, qui ne communiquent pas forcément les bons messages, d'ailleurs, aux vedettes en question. Et voilà comment ça se passe.
Alors, il y a Match, la tradition du grand reportage, il y a évidemment la tradition des photos, le choc des photos, le poids du mot, le choc des photos. Mais il y a aussi une tradition littéraire, et une tradition de très grande écriture que symbolise Janco. Il y a d'ailleurs Janco, il y a une bio qui vient de sortir. Et c'est vrai qu'on redécouvre Janco depuis une dizaine d'années, l'orgueil des mots notamment. Je crois que Luchini a beaucoup fait pour lui. Mais c'est vrai que c'est un portrait triste de génie. Vous l'avez connu, c'était bon. Et vous écrivez « Noble et secrète figure de Saint-Germain-des-Prés, écrivain occitan de culture latine grâce au lycée de Carcassonne et grand styliste de la langue française, Janco avait débarqué à la gare d'Austerlitz à 18 ans depuis son village de Bram dans l'Aude avec deux valises en bois. Moins de 20 ans plus tard, en 61, déjà bardé d'une solide œuvre littéraire et poétique, il glanait le prix Goncourt avec la pitié de Dieu. Et c'est vrai que ça raconte une France qui est morte, c'est-à-dire qui est presque mythologique. Tu arrives à la gare d'Austerlitz avec...
Deux valises en carton. En bois.
À l'époque, des valises en bois.
Et Roger Théron, d'ailleurs, qui était...
Comment il parlait déjà, Roger Théron, comment il disait ?
Alors voilà, écoutez, Pascal Pro, on va prendre notre temps. Voilà. Il disait toujours, quand il y avait un problème, un sujet, ayons des nerfs. J'ai gardé tout ça en mémoire parce que c'est tellement extraordinaire pour comprendre la psychologie. Écho, donc, puisque vous parlez de lui, effectivement, je l'ai beaucoup connu et j'avais la chance de l'avoir au téléphone tous les matins. Et à l'époque, comme on parlait encore français et pas franglais ni globiche, il disait toujours, Patrick, Est-ce que vous avez écouté les nouvelles? Les nouvelles! Ça voulait dire que j'avais écouté RTL, Europe 1, etc., et que je lui restituais un petit peu ce que j'avais entendu. Et ça lui permettait en plus de faire le tri dans ce que lui-même avait entendu, pour parler avec Roger Théron ensuite de notre conversation, à l'issue de laquelle intervenait Jean-Éder Nallier, qui s'empressait de savoir, mais allô Patrick, mais qu'est-ce que Jean t'a dit ce matin? Ce qui lui permettait à lui d'appeler Philippe de Baleine, rédacteur en chef, pour lui proposer une carte blanche, c'est-à-dire une libre tribune.
Alors j'ai un petit document d'archives à vous montrer. En 1979, Paris Match célèbre ses 30 ans. Et Gérard Rolls, pour Antenne de Midi, qui à l'époque c'était formidable Antenne de Midi avec Daniel Béhilalian, propose un reportage. Et je vous propose de voir quelques images de ce reportage.
Voici un numéro du magazine Paris Match de 1949. Entre ce numéro de 1949 avec, si je vois bien, Martine Carole en couverture, et ce numéro de Paris Match de cette semaine, il y a 30 années. 30 années du plus grand magazine de photos d'information français. Pour les créateurs de cet hebdomadaire, il n'y avait qu'une seule devise, être partout les premiers. Ce qui expliquait le succès foudroyant de Paris Match dans les années 50, avant que la télévision ne fasse son apparition et ne révolutionne un petit peu le monde de l'information.
C'est Jean Prouveau qui, en 1949, il y a 30 ans donc, décide de relancer Match sous le titre Paris Match. Très vite, dès les premiers numéros, l'hebdomadaire trouve un style. Ses grands reportages en couleur sur la mode, le cinéma, l'aventure ou même la guerre assurent rapidement le succès de Paris Match. Dans Match, il y a à la fois du dramatique, puis il y a aussi beaucoup de futile. Est-ce que ça vous gêne pas, ça?
Rien de plus important, de plus sérieux que le futile. Vraiment. Je vois pas en quoi ça pourrait être gênant.
Sur la même table, on voit Dien Bien Phu, la guerre d'Algérie, Brigitte Bardot.
Mais supposez que vous ne voyez que Dien Bien Phu, ce serait quand même pénible. Ça ne serait pas un reflet du monde tout à fait exact.
Jackie Garofalo,
qui était
extraordinaire photographe, surnommé La Ficelle. Pourquoi ? Parce qu'il passait partout.
Parce qu'il y a une légende des photographes de match.
Il y a une légende des grands photographes de match, Claude Azoulay, bien sûr, Pedrazzini, qui, vous le savez, a été tué à Budapest. Et on avait surtout publié, enfin, on connaît les photos mémorables de Pedrazzini qui voit sur son lit de mort son reportage. Il regarde sur son lit de mort. Il va s'éteindre peu après, son dernier reportage.
Puis il y a une photo également célèbre du pape, je crois, dans sa piscine, avec un photographe qui était resté 72 heures dans un arbre.
En planque, oui, mais pas que là. Il y a eu tellement de planques, d'ailleurs. Il y en a même eu à la Boisserie, il y en a eu pour De Gaulle, il y en a eu partout.
Mais ça, mais celle-là, c'était Jean-Paul II, je crois, après son attentat. Ah oui, je crois que c'était Jean-Paul II après l'attentat, qui était allé à Castel-Gandolfo. Et il y avait une photo. Alors, on a d'ailleurs des couvertures de match à vous montrer.
Et je voudrais juste dire un tout, si vous le permettez,
je vous en prie,
Garofalo. Oui. C'est qu'on parlait un peu des sujets futiles, par exemple. Quelquefois, il y en a eu, mais lui, il en a fait de très très grave. Il a été en immersion dans Harlem, par exemple, pendant longtemps. Ça, c'est un reportage tout à fait historique. Et après, il a beaucoup travaillé le Dalai Lama, après, au Tibet. C'est pour montrer, justement, du point A au point Z, jusqu'où allait Paris Match.
Alain Delon, vous en parlez. Il rêvait d'un clan soudé, diminué, le dernier monstre sacré, le seul du cinéma, assiste impuissant au combat fratricide auquel se livrent ses enfants, Anouchka, sa fille préférée, Anthony, son aîné, Alain Fabien, au crépuscule de sa vie. On est au-delà du spectacle et des panem en circenses, déplore Bernard-Henri Lévy dans La Règle du jeu, en donnant la parole à Anthony au nom du père. Une interview de Caroline Manger. Paris Match, en janvier 2024, a ouvert le dossier de l'homme blessé, de la solitude du samouraï. Derrière le constat alarmant, hommes de loi, antagonistes et réseaux débridés ont déchaîné le feu. Je ne sais pas si on a des couvertures de match. Parmi les grands scoops, on les a vus, les grands scoops, la photo par exemple, qui ces dernières années, qui a marqué, c'est Mazarine Pinjot. Oui, mais alors dans ces cas-là, François Mitterrand donne son accord.
Ça s'est négocié, amicalement. En fait, voilà comment ça s'est fait rapidement. Les photographes qui vont saisir cette photo de Mazarine devant le restaurant Le Divelec ne sont pas du tout sur la piste de Mazarine. Ils cherchent à voir Adjani, qui est en rupture amoureuse. Et c'est par la confidence d'une commerçante, dont le fils rêve d'être photographe, qu'ils vont apprendre que Mazarine habite juste au-dessus. Et du coup, ils vont attendre et ils vont la voir descendre avec son compagnon de l'époque, Ali. Ils vont suivre jusqu'aux Invalides. et se planquer sur l'espace des invalides d'Air France à l'époque, là, avec un 600 mm là, pour avoir la photo. Mais après, il y aura la grande négociation qui va durer plusieurs mois. Parce que Mazarine passe des examens à la rentrée de septembre. Les photos sont prises en été. Et on fait savoir à Paris Match, puisque tout le monde sait à l'Élysée que nous avons les photos, que c'est pas très opportun parce qu'elle passe un examen, que ça va la perturber, etc. Donc c'est Franck Thénault, qui est le numéro 2 de la société avec Daniel Philippaki, le grand propriétaire, qui va négocier diplomatiquement avec Roland Dumas dans un restaurant qui s'appelle Le Pichet, qui se trouvait rue Pierre Charon.
Bien sûr.
Et très habilement, d'ailleurs, Roger Théron me demande à l'époque de prendre un couvert à côté de la table de Roland Dumas.
Et
de Franck Thénault. Oui, Patrick, ce serait bien peut-être de trouver une place à côté de Franck. Et de Roland Dumas. Et là, je vois Franck.
Il n'était pas très directif parce que c'était manifestement toujours.
C'était comme ça, oui.
Voilà, une parole très diplomatique, ce serait.
Comme Daniel Philippaki, de la même manière.
Alors, ils allaient dîner, paraît-il, lorsqu'ils faisaient la nuit de bouclage. Ils allaient dîner et ils revenaient tous les deux. C'est Dominique Grimaud qui m'a souvent raconté ça. Et là, ils regardaient. C'est-à-dire que.
Le mur.
Voilà, Théron montrait à Philippaki.
Voilà, ce qu'on appelle le mur.
Et après, ça partait.
N'était pas encore un mur numérique.
C'est toujours sorti le jeudi, match ?
Non, c'est sorti le lundi pendant un moment, et même le samedi au début dans les années 50. Mais non, le jeudi, c'est la bonne...
Qui a fait
la devise ?
Non, qui a fait le plus de fois la couverture de match ?
Johnny Hallyday. En fait, c'est Johnny. Seul ou avec sa famille, et là j'ai une toute petite anecdote, c'est qu'il en a manqué une couverture. Celle de son mariage avec Laetitia. Alors là, c'était énorme, parce qu'il se marie donc avec Laetitia, et le sujet est fait par Paris Match, comme par d'autres journaux à l'époque. Il y a une quasi-exclusivité, mais pas totale. Et au moment même où on va la publier, eh bien, une dépêche arrive. Claude Chirac vient d'accoucher. Et Roger Théron se tourne avec la dépêche vers moi et dit « Bon, Patrick, nous allons laisser la couverture à Gala. » Et après, il faut se débrouiller pour appeler Johnny quand même.
Bon, ça, c'est le numéro des 75 ans. Alors, effectivement, on se disait peut illustrer les 75 ans de match.
Pas facile.
Pas facile, j'imagine. Il y a eu des réunions auxquelles vous avez participé. Vous avez dû être consulté.
J'étais pas dans ces réunions-là, car maintenant, c'est Jérôme Béglé qui...
Bien sûr, mais match. Peut-être qu'on... Voilà, moi, je pense une excellente couverture de la vie Jérôme, parce que
le splendide, 50 ans. 50 ans d'histoire, et puis ça nous a accompagnés tous les Français. Ouais. Mais ce qui est intéressant, si vous le permettez, c'est que dans ce numéro, justement, je trouve que vraiment la tradition de match et son avenir sont là.
Ouais.
Il y a à la fois le splendide 50 ans d'histoire, mais il y a aussi un reportage exclusif sur les pionniers en France de l'intelligence artificielle. Donc on passe d'un monde à un autre. Sans oublier les grands reportages comme l'Ukraine. Les gueules cassées d'Ukraine, c'est terrible comme reportage. Donc, donc on est dans la grande tradition du passage de la tête de pont d'un sujet à un autre entre les générations.
Et puis on peut saluer peut-être la mémoire des grands directeurs de match, dont notre ami qui est décédé il y a quelques années.
On peut penser à Olivier Royan, évidemment.
Voilà,
Olivier Royan que nous avons accompagné, comme vous le savez, au son des cornemuses du Bagad de Landbiway. Venu spécialement pour ses obsèques. Cette photo est incroyable. Franck Thénault, à mes côtés Roger Théron, Alain Genestar, qui va devenir le directeur de match, il ne l'est pas encore, Olivier Royan et Daniel Philippaki. C'était pour les 50 ans. On n'a pas. Enfin, voilà.
Et puis on peut parler également de notre ami Philippe Labro, qui vous a reçu l'autre jour et qui a écrit je ne sais combien
202 parutions, Philippe Labro. 202 parutions dans Paris Match, des grands sujets, des grandes séries d'été en particulier. Et puis, bien sûr, on sait à quel point il est lié à l'histoire de l'Amérique, de sa jeunesse, l'étudiant étranger. Et comment il était lié à l'histoire de la mort de Kennedy, où il a réalisé un véritable scoop en étant le seul
journaliste français. Kennedy, ça marche bien encore, si vous faites
Kennedy, ça marche toujours. D'ailleurs, il y a un livre qui sort sur John en ce moment de Stéphanie Desor, là. Intéressant, ça marche toujours.
Ce qui a bien marché également pendant des années, mais là, c'est là qu'on voit qu'à l'époque, le journaliste flirtait parfois avec la ligne jaune, c'est dans l'affaire Grégory. Moi, j'ai vu un documentaire sur l'affaire Grégory, je crois que c'est sur Netflix.
Oui, qui est très bien.
Qui est formidable, et c'est Jean Kerr.
Jean Kerr,
qui était très présent.
Bon,
mais on est quand même sur de la ligne.
On oublie de dire que Juncker a quand même.
C'est formidable, Juncker, bien sûr, mais on est quand même sur une ligne jaune de temps en temps.
Certes, mais Juncker a quand même désarmé Jean-Marie Villemain avant qu'il ne. Une première fois, avant qu'il ne tue Laroche. Parce que vraiment, il était dans l'intimité.
Mais c'est vrai que convenons que les journalistes à l'époque. Et notamment parfois des photographes faisaient des choses qu'ils ne feraient plus aujourd'hui.
Moi, je ne me sens pas concerné par cela. J'ai été témoin au procès, d'ailleurs, de l'affaire Villemain à Dijon, où Juncker était témoin en même temps que moi. Et j'ai plutôt rendu hommage, d'ailleurs, à une aristocratie des journalistes de terrain, parce qu'ils en bavent vraiment.
C'est vrai.
Que ce soit à Bruyères-en-Artois, que ce soit à L'Épanche, sur Vologne.
Bruyères-en-Artois, évidemment, c'est la ville de Vèvre. Avec le juge Pascal, on est en 71 ou 72, c'est des grandes affaires criminelles.
Et qui divisent politiquement la
France. C'est notre vie par image. Vous savez, dans les maisons de famille, dans les maisons de famille l'été, quand vous revenez, trouvez un Paris Match sous un lit, un Paris Match qui a 2 ans, 3 ans, et puis il n'a pas été jeté, il y a du sable.
Que l'on n'oublie pas dans les trains.
Exactement.
Les familles les ont gardés.
Donc, ce qui est vrai, alors bien sûr, c'est le. On dit comment un Pitcher Magazine.
Pitcher Magazine, expression américaine, évidemment.
Mais Life, par exemple, ça existe toujours ?
Life existe sur, en digital maintenant.
Ouais, vous rendez compte.
C'est un drame, ça, parce que Life était un journal extraordinaire.
Et c'était le pendant de match.
Ah, c'était le modèle.
Ouais.
Mais il faut savoir que Henry Luce, qui était le grand patron de Life et de Time Magazine, avait adressé un TEDx à l'époque à Roger Théron. Lorsque Match avait fait sa couverture sur Disney, la mort de Disney, avec Mickey et une larme qui perlait. Et il a dit, Match, le meilleur magazine du monde, point de suspension, on n'y avait pas pensé.
Il est 10h31, Somaïa Labidi nous rappelle les titres. Et si vous le souhaitez, nous pourrons rendre hommage à un chanteur qui nous a quittés. Il y a 49 ans, et pour qui nous gardons une tendresse importante et dont nous connaissons toutes les chansons, en tout cas celle-là, que nous entendrons dans une seconde. Somaïa.
Près de 6 semaines avant les européennes, discours du président sur le vieux continent depuis l'amphithéâtre de la Sorbonne à Paris, un événement à vivre en direct dès 11h sur notre antenne. Le renvoi de migrants illégaux au Rwanda fait l'unanimité selon ce sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. 67% des sondés seraient pour l'application en France de cette mesure qui vient d'être adoptée par le Royaume-Uni, quand 32% des personnes interrogées se disent contre. Et puis 93 interpellations après des heures lors d'une manifestation pro-Palestine au sein de l'Université de Californie du Sud. Vive tension également sur un campus au Texas, comme vous pouvez le constater sur ces images.
Qui est mort le 25 avril 1975 et qui reste, l'année prochaine ça fera 50 ans, et qui reste dans l'imaginaire français? Monsieur Bidget.
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas.
Chanteur.
Claude François. Puisqu'on va entendre. Vous dites Claude François. Mmh. Claude François est mort en 1978. Mauvaise réponse. Vous êtes le maillon faible.
Au revoir.
Au revoir.
Dans l'imaginaire français.
Mais oui. 49 ans.
Jacques Brel.
Non. Jacques Brel est mort en 1979. Il est mort en octobre. Donc ce n'est pas lui.
Brassens.
Georges Brassens est mort en 1981, en novembre. Ce n'est pas lui.
Mais vous êtes une vraie. Oui. En encyclopédie des morts de chanteurs.
Je crois qu'il est mort le 1er novembre, Georges Brassens.
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas ? Un indice. Quand il chantait, il ne savait pas ce qu'il chantait. Il avait appris de manière.
Phonétique.
Phonétique. Oh, vous êtes nul, franchement. Vous me faites de la peine.
Ouais.
Musique.
Qui saura qui saura me faire oublier, dites-moi.
Mike Brandt.
Oui, ça, je vous remercie, Mike Brandt. Voilà, il y avait déjà Mike Brandt.
Exact,
Florian Bachelier, qui nous écoutait, Mike Brandt.
Il ne comprenait pas ce qu'il chantait.
Je salue vos amis que vous retrouverez.
Il est quand même un peu loin.
Mike Brandt, il est très présent, Mike.
Par cette chanson.
Dans votre playlist.
Mais non, il y a notre ami, notamment Christian. Arrêtez, notre ami Christian Olivier, qui est le président du fan club Christian Olivier, qui a longtemps été à RTL, qui est le
président du fan club de Mike Brandt, du 14e arrondissement. Parce qu'il y a plusieurs fan clubs et lui, il est.
Oui, bon. Et les relations.
Sont... vous pourrez saluer votre ami Dominique Guindon et son fils Jonathan, qui ont écouté avec beaucoup d'intérêt, que vous retrouverez cet été, notamment, je crois, à Ajaccio. Et il envoie un petit message, Dominique Guindon. Il dit : recherche un directeur de casino à Ajaccio, la tenue pourrait correspondre.
La quoi ? Ta tenue pourrait correspondre.
Ma tenue pourrait correspondre.
C'est vrai qu'on a un peu de Niro dans Casino. Ouais.
Non, bon. Mais oui, alors je salue Lionel Gougelot, évidemment, de notre ami d'Europe 1, qui dit ils sont pas bons, bien sûr. Vous n'aimez pas la chanson populaire.
Vous
n'aimez pas la chanson populaire. Vous êtes.
Pour notre génération, éventuellement, mais au-delà, personne.
Mais écoutez, le nom. Tout le monde.
Il est un peu connu par ses dépressions.
Mais non, mais.
Non, mais toi, c'était Trianon en net.
Je ne vous dirai pas le mot.
Trianon.
Bon, il s'est suicidé, Mike Brandt.
Bah oui. Rue Erlanger.
Alors, cette rue Erlanger, qui est une rue maudite.
Oui, il y en a.
C'est là qu'il y a eu également l'incendie majeur. C'est une rue.
Oui.
Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui habitent rue Erlanger, mais je serais eux, je déménagerai vite. Hein, parce que c'est une. Non, mais c'est une rue. Ça existe. Hein, il y avait la rue Friedland, comme ça, à Paris. Tapie m'avait dit ça. Avenue de Friedland, c'était une rue où il y avait des mauvaises ondes, parfois. Bon, bref, il est 10h36 et c'est terminé. Merci vraiment, Patrick.
Merci, Pascal. Oui.
Merci, c'est toujours un plaisir lorsque vous venez. Virginie Leblond-Taïeb était à la réalisation. Rémi était à la vision. D'ailleurs, c'est l'occasion de penser à notre amie Audrey Misiraka, que j'ai souvent citée, qui est réalisatrice ici. Et on l'embrasse fort, Audrey, parce que c'est compliqué actuellement. Je sais que elle tient bon, elle a le moral et qu'elle sache que chaque jour nous pensons à elle et notamment au moment où nous rendons l'antenne. Audrey Misiraka, Yannick était au son, merci à Marine Lançon, bien sûr à Félix Perola. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde à ce soir.
Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.